Le fog s'installa, épais, impénétrable. Il devint inutile de grimper à la tour de guet, toute surveillance visuelle étant désormais impossible. Amy et les autres réintégrèrent le dortoir des lunatiques avec l'impression de réintégrer les catacombes. Au fur et à mesure qu'ils dégringolaient les marches, Hugues se plaignit de la montée du voile noir. Il termina le trajet paupières closes, cramponné au bras d'Amy. On parlait de plus en plus d'une attaque imminente au gaz de combat. Attaque qui préluderait à l'invasion de la Grande-Bretagne par les troupes allemandes débarquées et parachutées. « Si vous reniflez une odeur de moutarde, répétaient les médecins, enfilez aussitôt vos masques, compris ?» Les anciens combattants se rappelaient avec terreur l'hypérite de 14-18 qui vous changeait les poumons en dentelle en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Les rumeurs les plus folles couraient quant à la stratégie mise en place par l'ennemi. Tantôt on évoquait des bombes larguées du haut du ciel. Tantôt on chuchotait des choses à propos de conteneurs débarqués par les sous-marins de la Kriegsmarine et dissimulés dans les caves londoniennes, sous l'apparence rassurante, de fûts de bière irlandaise. La cinquième colonne a pour mission de les amorcer, murmurait-on. Ces salopards sont équipés de masques du dernier cri, autrement plus efficaces que les cochonneries qu'on nous a distribuées. Les heures s'étiraient, interminables. Hugues tripotait sa maquette de balsa d'une main distraite. Maggie se cramponnait à la barre paratonnerre glissée dans sa ceinture. « Je pense à ces pauvres oiseaux, » souffla-t-elle alors que le jour baissait. « Ils seront les premiers touchés. Nous ne les entendrons plus jamais chanter. Comme ce sera triste. » Amy s'allongea sur son lit et ferma les yeux. Elle se savait en danger. Son instinct lui criait que quelque chose allait arriver, ce soir même, et lui fallait se tenir prête. Une heure plus tard, un brouhaha se répandit de salle en salle, s'enflant jusqu'à prendre des allures de tempête. La sirène d'alerte poussa son mugissement. Enfin, le cri tant redouté éclata. « Les gaz ! Les gaz !» Amy éprouva un curieux soulagement. L'attente prenait fin. Il était temps, une heure de plus et elle était bonne pour la camisole. « Les masques !» hurlaient les infirmières. « Mettez vos masques ! Vite !» Se désintéressant des malades valides, elle se précipitait au secours de ceux qui, alités ou inconscients, étaient incapables de s'équiper. « Aidez-moi à fermer les portes et à disposer les boudins de chiffon !» ordonna la nurse Wilcott. « Il faut rendre les salles étanches !» À l'idée de se retrouver enfermée, Amy fut prise de panique. Et profitant de ce que la vieille infirmière courait humidifier ses tortillons de charpie sous le robinet, elle se glissa dans l'entrebâillement de la porte. L'idée lui vint de mettre la confusion à profit pour s'échapper de l'hôpital. Mais c'était absurde, où serait-elle allée? Elle ne connaissait personne à l'extérieur, et sa seule chance de s'installer un jour en ville était que Libby Cogan parvienne à l'adopter. Bousculée par les infirmières qui poussaient des chariots et les blessés clopinant sur leurs béquilles, elle remonta le courant en direction de la sortie, sans idée préconçue. Dans sa tête, une voix criait. « Ne reste pas en place, c'est la pire tactique à adopter. Il faut être mobile, ne jamais se placer le dos au mur. Bouge, bouge sans cesse. » Docile, elle bougeait, fuyant elle ne savait quoi, elle ne savait qui. Une fumée jaunâtre envahissait à présent les couloirs, brouillant les contours des objets. On n'y voyait plus à 10 pas. Les gaz !» continuaient à s'époumonner les médecins à travers la purée de poids qui s'épaississait. Amy plaqua le masque sur son visage. Pour le moment, elle ne souffrait pas, ses yeux ne larmoyaient pas, sa gorge et ses poumons ne la brûlaient pas davantage. Combien de temps serait-elle en mesure de résister ? Soudain, l'impression du danger s'accrut et la jeune femme devina qu'un prédateur se déplaçait à l'abri du brouillard pour fondre sur elle. Elle était sa proie, sa victime. Il ne venait que pour elle. Les autres ne l'intéressaient pas. Les gaz de combat faisaient office de diversion, de camouflage, enveloppant ce fauve inconnu du voile de l'impunité. Il s'y déplaçait à son aise, à l'insu des médecins, des sentinelles. L'angoisse serra la gorge d'Amy. À cause de la fumée, elle ne savait plus où elle se trouvait. Elle chercha à s'orienter grâce aux panneaux de bois fichés au détour des couloirs. Le Saint Jobs pouvait facilement se changer en labyrinthe, même pour une habituée des lieux. Elle avançait à tâtons quand une silhouette jaillit du brouillard. Un masque de grenouille, aux gros yeux ronds, planté au sommet d'un costume noir de clergyman. Le prince Crapaud, c'était lui. Comme dans le conte, il venait la chercher. Il l'avait choisie au moyen de sa lorgnette magique, elle, Amy Sweetheart, parmi toutes les autres filles de Londres. Elle n'avait pas le choix. L'envoûtement la privait de son libre arbitre. Elle devait le suivre, devenir sa servante, sa femme. Il était grand, mince, corseté dans un habit noir comme un croque-mort. Une cape funèbre flottait sur son dos, une espèce de MacFarlane couleur de deuil. Amy recula, happant l'air raréfié. « Allons, » se dit-elle dans un sursaut de lucidité. « Ce n'est qu'un type affublé d'un masque à gaz, pas un enchanteur de contes de fées. Ressaisis-toi. » Le prince Crapaud tendit la main, la battit sur le poignet droit de la jeune femme et serra. « Suis-moi, » lança-t-il d'une voix étouffée par la pastille filtrante du respirateur. Une voix qui n'avait rien d'humain et qui semblait sortir d'un coffret fermé à clé où l'on aurait tenu un lutin prisonnier. « Attends, ne t'en va pas, ma jolie rouquine. » Il tira sur le bras d'Amy avec force, mais la jeune femme se rejeta en arrière. Elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas devenir l'épouse du prince Crapaud. Subir son étreinte et donner naissance à des petites filles à tête de grenouille, non. Hélas, l'enchantement lui commandait d'obéir. Déjà, ses pieds allaient à la rencontre de la créature. Un pas, deux pas. À ce moment, une furie surgit du brouillard, brandissant une barre de fer qu'elle abattit sur le dos de l'inconnu. « Laisse-la » hurlait-elle. « Laisse-la, sale épouvantail !» Elle frappait si bien que l'homme dut lever les bras pour se protéger et battre en retraite. Amy finit par identifier Maggie. La démantaletait, les phalanges serrées sur son paratonnerre fétiche. « Sale épouvantail » répéta-t-elle en brandissant son arme désormais inutile. Le prince noir avait pris la fuite, avalé par la fumée. C'est à peine si l'on percevait encore l'écho de ses souliers galopant vers la sortie. Le brouillard se dissipait et avec lui l'atmosphère de fantasmagorie dont Amy avait été un instant victime. « Je connais ces épouvantails, radota Maggie. De sales bougres. Ils en veulent aux humains de les avoir fait si ridicules. Alors ils viennent se venger. Celui-là voulait t'emmener. Mieux vaut ne pas savoir pourquoi. « Merci, bredouilla Amy. Tu m'as sauvée. Sans toi ?» Elle s'interrompit. Elle venait de réaliser que l'homme ne s'était pas exprimé en anglais. Il n'avait pas dit « Attends, ne t'en va pas, Julie Rouquine, en anglais, mais en allemand. » « Et pourtant, je l'ai compris, » songea-t-elle, éberluée par ce nouveau prodige. « C'est à se cogner la tête contre les murs, » soupira la nurse Wilcott. Il ne s'agissait pas d'une véritable attaque au gaz. On a découvert des grenades fumigènes allemandes, ici et là, dans les couloirs, comme si quelqu'un avait voulu déclencher une panique monstre dans les locaux. Ça n'a pas de sens.
« Ça dépend, » objecta Libby Cogan. Les Boches s'imaginaient sans doute que l'hôpital cachait un machin stratégique. « Je ne sais pas, moi. Un centre de communication, une station radar. Ils ont envoyé leurs espions pour inspecter les lieux. « Possible, » marmonna la vieille infirmière en faisant la moue. « Avec ces gens-là, il faut s'attendre à tout. »
Amy, elle, ne dit rien. Elle savait que cette opération avait été montée dans le seul but de la récupérer. Le prince Crapaud avait mis à profit la psychose des gaz de combat pour se faufiler dans l'enceinte du Saint Jobs au nez et à la barbe des sentinelles. Sans l'intervention de la femme au paratonnerre, sa mission aurait été couronnée de succès, car Amy n'aurait su lui résister. « Il m'a parlé, » ne cessait de se répéter la jeune femme. « Il s'est adressé à moi en allemand. » Et je l'ai compris. je ne me suis même pas rendu compte qu'il me parlait dans une langue étrangère. Ce n'est qu'ensuite que... Elle n'aimait pas cela. Pas du tout. Elle n'aimait pas davantage le regard que Maggie Brandcastel posait sur elle depuis son intervention musclée. Il y avait quelque chose de soupçonneux dans sa prunelle. Au repas du soir, la folle s'assit en face d'elle. « C'est pour toi qu'il venait, n'est-ce pas ? » siffla-t-elle en émiettant sa tranche de pain sur la table du réfectoire. « Il t'a parlé dans la langue des épouvantails. J'ai bien entendu. Et toi, tu avais l'air de le comprendre. Tu ne devrais pas fricoter avec des créatures de cette espèce. Elles n'apportent que le malheur. » Un peu plus tard, Huck, qui avait écouté leur conversation, revint à la charge. « Si ça se trouve, chuchota-t-il, c'est à cause de toi qu'on nous a déclaré la guerre. Les Boches veulent te récupérer. Tu sais, comme dans ces histoires de Grecs qu'on nous serinait au collège. La guerre de Troie, Achille, Ajax. Tu étais leur Hélène. Tu t'es enfuie avec un prince anglais, alors ils ont décidé de te reprendre. Oui, je crois que c'est ça. Tu es très importante à leurs yeux. C'est à cause de toi qu'ils ont mis l'Europe à feu et à sang. Maintenant qu'ils ont tout détruit là-bas, ils s'en prennent à nous. C'est de ta faute si on bombarde Londres toutes les nuits. Je pense que tu étais la femme d'un prince nazi. Peut-être même la petite amie du roi Hitler. Oui, oui, ce serait possible. Tu es quelqu'un de dangereux. Tu l'as oublié, mais c'est ainsi. Il faudrait qu'on ait le courage de te supprimer. Comme ça, la guerre s'arrêterait et nos braves gars cesseraient de mourir à cause de toi, à cause de tes histoires de fesses. Amy l'écoutait, glacée. Le débit du garçon s'accélérait au fur et à mesure que la colère s'emparait de son esprit malade. Elle aurait voulu le faire taire, mais elle ignorait comment. À travers la folie du jeune homme, elle voyait s'organiser les lignes d'une effrayante architecture. Et s'il avait deviné la vérité, se dit-elle. Elle se rappela que les Grecs voyaient en chaque démon un prophète potentiel, un oracle par la bouche duquel s'exprimaient les dieux. « Suis-je une Allemande en fuite ?» se demanda-t-elle. « Aurais-je effectivement fui ma patrie pour suivre un amant anglais qui... » Elle secoua la tête, irritée de tomber une fois de plus dans le piège de la mièvrerie. « Allons, il était temps de se réveiller. »« Assez d'histoires d'amour, » pensa-t-elle. « Regarde la vérité en face. Tu es une espionne. » Un membre de cette cinquième colonne dont tout le monde parle. Tu faisais partie d'un réseau de saboteurs, voilà pourquoi tu as subi un entraînement physique de haut niveau. Tu étais parfaitement bilingue, alors un U-boat t'a débarqué une nuit sur la côte, muni d'une fausse identité, avec ordre de te fondre dans la masse. Mais tu as été blessé à la tête, et les caprices de l'amnésie t'ont fait oublier ta langue natale. Ensuite, l'instinct de survie t'a poussé à jouer le jeu. Tu as mis en pratique ce qu'on t'a inculqué à l'école d'espionnage de l'amiral Canaris. Une nausée la chavira. Elle se cramponna à la table pour ne pas courir vomir dans le lavabo. Ce qu'elle entrevoyait la dégoûtait. Une espionne, elle, Amy Sweetheart, la fille aux cheveux rouges. Elle était la louve d'une meute de loups-garous.